Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Il n'y a laissé aucune chance. Il a crié j'étouffe. Et non, on y va, on continue.
Ils veulent que la police se remette en question. Les proches de Cédric Chouviat relancent le débat et demandent des réponses au gouvernement sur les techniques d'interpellation. Ce livreur de 42 ans est mort d'un arrêt cardiaque après avoir été plaqué au sol.
L'Allemagne qui reconfine un demi-million d'habitants. Une décision spectaculaire face à un foyer détecté dans le plus grand abattoir d'Europe.
En France, une étude confirme que les enfants ne sont pas si contagieux.
Les enfants peuvent être infectés, mais ne sont pas très contagieux pour leur entourage immédiat, en tout cas dans le cadre scolaire.
Dans ce journal aussi, toujours aucune trace du corps d'Estelle Mouzin. Les recherches se poursuivent dans les Ardennes, dans les propriétés de Michel Fourniret.
Barack is back. Il rejoint en tout cas Joe Biden en campagne et c'est ce soir.
Et puis ça n'a pas loupé. Novak Djokovic à son tour positif au Covid après son tournoi organisé dans les Balkans.
C'est compliqué dans un sport où il y a du contact, où ça transpire. C'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Le regard de Cédric Pioline à suivre. La Bourse de Paris clôture en hausse d'1,3% à 5017 points.
Et avec Anissa, c'est la couleur du ciel. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien demain, c'est encore une belle journée qui se profile. Quelques nuages en altitude, mais surtout des températures qui continuent de grimper. Le temps sera très lourd. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Ils veulent une réponse solennelle du président Macron. Une famille remet à la une ce soir le débat sur les techniques d'interpellation et les accusations de violence policière. La famille de Cédric Chouviat, mort à 42 ans, victime d'un malaise cardiaque après avoir été plaqué au sol par des policiers. C'était début janvier à Paris. J'étouffe, disait-il, selon une expertise révélée par Mediapart et Le Monde. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Plusieurs de ses proches ont pris la parole aujourd'hui pour demander des réponses fortes et immédiates.
Oui, dans un mélange de colère, désarroi et tristesse, les enfants, la veuve, la sœur, les parents de Cédric Chouviat ont tenu à s'exprimer, notamment son père, très ému après avoir maintenant découvert les derniers mots de son fils, répétant qu'il étouffait.
Quand vous entendez cette fois votre fils, c'est dur. Et on n'y a pas laissé de chance, quoi. En gros, c'est crève, salopard, parce que ta plaque était sale. Vous voyez ? Donc on n'y a laissé aucune chance. Vous savez, dimanche, c'était quoi, dimanche ? C'était la fête des pères. Moi, il m'a manqué un coup de fil. C'est de mon fils. Il ne m'a pas appelé dimanche.
Les proches de Cédric Chouviat attendent que les quatre policiers impliqués soient mis en examen. Ils ne comprennent pas que ces fonctionnaires ne soient toujours pas suspendus. Quant aux avocats de la famille, ils dénoncent des violences policières permanentes, un déni, un mépris des institutions, tout en saluant le travail des juges. Maître William Bourdon lui pointe particulièrement l'attitude des policiers.
Au lieu de s'arrêter, ils continuent. Et pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils sont dans l'obsession de l'efficacité, dans l'obsession que l'immobilisation soit absolument parfaite et acquise. Et on voit bien que dans cette technique-là, il y a une perversion. Et cette perversion, c'est qu'elle conduit à s'acharner sur un homme au moment où il faudrait s'abstenir.
Alors la famille de Cédric Chouviat lance un appel au président de la République, lui demandant de s'exprimer et d'interdire aux policiers de pratiquer la clé d'étranglement et le plaquage ventral.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Et les policiers de leur côté affirment ne pas l'avoir répété lorsqu'il s'est plaint d'étouffer. Lorsqu'il s'est plaint. En tout cas, c'est ce que dit un de leurs avocats, notamment Thibault de Montréal.
Lorsque les policiers en garde à vue ont été confrontés à ces propos, ils ont tous été à la fois surpris et effondrés. Effondrés parce que, bien sûr, s'ils les avaient entendus, ces propos, ils auraient aussitôt arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. En réalité, ces propos, ils ne les ont pas entendus, puisque c'était un casque micro, donc avec un micro tout près de la bouche, qui a donc amplifié ces propos. Par ailleurs, M. Chouviat était en train de lutter, donc il y avait un bruit de lutte. Et enfin, tout ça s'est déroulé à quelques dizaines de centimètres de la circulation, une circulation abondante qui faisait aussi beaucoup de bruit. Ce qui est extrêmement important à souligner, c'est que si les enquêteurs avaient eu le moindre doute sur le fait que tel ou tel des policiers avait menti sur ce point qui est un point important, il y avait une manière procédurale très simple qui consiste à déférer les gens à la fin de leur garde à vue. Or, ce choix n'a pas été celui des juges d'instruction. C'est donc que, à ce stade, il est probable que le juge d'instruction ait considéré comme les policiers qu'il n'ait pas pu entendre les propos de M. Chouvia.
L'avocat des policiers Thibault de Montbrial avec Alain Acco.
Voilà cette affaire, suite à l'affaire Traoré, le pouvoir là-dedans, le pouvoir de l'État de plus en plus remis en question par la population. On y revient notamment avec les grandes voix à partir de 18h30.
Et au même moment, on apprend ce soir que dans une toute autre affaire, 4 CRS sont mis en examen pour violence volontaire. Les faits remontent à décembre 2018, en marge du mouvement des Gilets jaunes. Des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un fast-food proche des Champs-Élysées avaient été violemment frappés à coups de matraque.
Enfin, dernier dossier cette fois à Strasbourg. Un policier a aujourd'hui été condamné à 18 mois de prison avec sursis, là aussi pour des coups de matraque sur une manifestante gilet jaune de 62 ans.
L'Allemagne sous le choc, c'est le deuxième grand titre ce soir. Deux cantons de Rhénanie ont été forcés de revenir au confinement. Décision spectaculaire après que 1500 employés d'un abattoir ont été testés positifs. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne. C'est un retour en arrière terrible ce soir pour un demi-million d'habitants.
Oui, même si dans les faits, avec la fermeture dès la semaine dernière des écoles et surtout de l'abattoir, le principal employeur de la région, on était déjà en situation d'urgence sanitaire. Et dès jeudi, le canton voisin sera lui aussi concerné pour mettre sous cloche une zone la plus large possible et éviter ainsi la propagation du virus au reste du Land, la Rhénanie, un bassin de population très dense avec plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a donc refermé les bars, les salles de sport, les piscines, les cinémas dans ce canton et interdit de se retrouver entre amis ou avec la famille jusqu'au 30 juin. À l'heure actuelle, il n'y a aucune autre contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leurs familles. Ce sont des saisonniers roumains et bulgares parqués à l'écart de la commune dans des logements exigus, à l'hygiène précaire. Cela fait des années que les syndicats allemands dénoncent leurs conditions de travail et de vie. Une filière de la viande et qui est vraiment montrée du doigt ici en Allemagne, car depuis la fin avril, c'est le 5e foyer d'infection qui se développe dans un abattoir en Allemagne. Mais la politique de la région est aussi épinglée, car il faut savoir que la Rhénanie est le Land qui a déconfiné ici le plus rapidement, contre l'avis d'Angela Merkel et au mépris des recommandations des scientifiques.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Les Anglais, eux, ont un peu plus le sourire. Ils vont pouvoir retourner au pub à partir du 4 juillet. Nouvelle phase de déconfinement, redémarrage de l'hôtellerie, restauration, du tourisme et aussi des coiffeurs.
En France, c'est la situation en Guyane en fait, qui préoccupe. De nouveaux moyens ont été envoyés. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Et avant cela, je recevrai à 18h20, dans 13 minutes exactement, le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce qu'on risque un rebond de l'épidémie à l'automne? Ces réponses, c'est à suivre sur Europe 1.
En tout cas, il y a une question qui semble de plus en plus tranchée alors que les écoles et collèges se remplissent à nouveau. Une étude confirme que les enfants ne sont pas de dangereuses bombes virales. Étude menée par le professeur Arnaud Fontanet sur la base de données recueillies dans l'Oise, l'un des tout premiers foyers. Victor Delande.
Tous les enfants des 6 écoles primaires de Crépy-en-Valois ont été testés, ainsi que leur entourage, les parents, les frères et sœurs. Au total, 139 personnes ont bien contracté le virus sur 1340, soit un tout petit peu plus de 10% du panel. Des enfants infectés qui n'ont d'ailleurs pas contaminé leurs camarades de classe. Pour Arnaud Fontanet, qui a mené cette étude pour l'Institut Pasteur, ces résultats sont très rassurants.
On a quand même un faisceau d'arguments aujourd'hui pour dire que les enfants peuvent être infectés, mais ne sont pas très contagieux pour leur entourage immédiat, en tout cas dans le cadre scolaire. L'autre élément intéressant de cette étude, c'est que les enfants ont fait des formes mineures de la maladie quand ils ont été infectés. À peu près la moitié d'entre eux n'avaient aucun symptôme.
Et pour l'autre moitié, quelques symptômes légers, diarrhée et un peu de fatigue. En revanche, dans les familles où les enfants sont tombés malades, 61% des parents ont également attrapé le coronavirus. Pour les chercheurs de l'Institut Pasteur, ce n'est donc pas l'école, le lieu de contamination, mais bien le foyer familial. Et ils vont plus loin dans leurs hypothèses, ce sont bien les parents qui ont contaminer leurs enfants dans la plupart des cas et non pas l'inverse.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Mais attention, ces résultats ne concernent pas les lycéens qui, eux, sont autant contaminés que les adultes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que les lycées n'ont pas rouvert. 18h09 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Venons-en maintenant aux recherches qui se poursuivent dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. On est 17 ans après sa disparition.
Les fouilles n'ont toujours pas abouti ce soir dans les anciennes propriétés de Michel Fourniret. Après une maison hier, les enquêteurs se sont déplacés à une quinzaine de kilomètres de là, au château du Sautou à Donchéry. Lionel Gougelot, vous êtes sur place. C'est un domaine de 15 hectares qu'il faut passer au peigne fin.
Oui, effectivement, 15 hectares de parcs, de bois, de forêts et d'étangs qui entourent une imposante demeure bourgeoise du 19e siècle. Un domaine acheté par Fourniret un peu plus d'un million de francs à l'époque grâce au butin de pièces et de lingots d'or qu'il avait volé à l'un des membres du gang des Postiches. Vous savez, cette célèbre bande de braqueurs des années 80. Et c'est ici, en 2004, que les deux premières victimes du tueur en série avaient été retrouvées, enterrées à plus de 3 mètres de profondeur. C'est donc dans ce décor que les enquêteurs et les experts de la gendarmerie ont à nouveau déployé leur dispositif de recherche pour sonder le terrain, survoler le domaine avec un drone. À cela s'ajoutent des plongeurs de la brigade fluviale qui explorent les points d'eau. Des recherches menées sur la base de ce que l'on sait des habitudes de Michel Fourniret, selon Didier Seban, l'avocat du papa d'Estelle.
On sait comment Michel Fourniret enterrait ses victimes. On sait qu'il préférait les puits, les points d'eau. Donc on va un peu plus loin, un peu plus profond. C'est un lieu suffisamment isolé, qu'il connaissait parfaitement, où il a déjà enterré 2 victimes, ça n'est pas rien. Et donc on pense que ce domaine n'a pas livré tous ses secrets. Les moyens sont mis pour découvrir le corps d'Estelle ou peut-être d'autres victimes oubliées de Michel Fourniret.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'à la différence de 2004, Michel Fourniret n'est pas là pour aiguiller les enquêteurs. Et d'ailleurs, quand Estelle Mouzin a été enlevée, il n'était plus depuis longtemps propriétaire du château du Sautou.
Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Ardennes. Le clan Fillon veut retourner au tribunal. Les avocats de l'ancien Premier ministre demandent la reprise du procès alors que le jugement est attendu lundi dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Cette demande qui fait suite aux déclarations de l'ancienne chef du parquet financier qui évoquait la semaine dernière des pressions venues de sa hiérarchie.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et à suivre dans un instant, Barack Obama en campagne ce soir aux États-Unis pour son ancien vice-président Joe Biden.
Et puis ça n'a pas loupé après le fiasco du tournoi de tennis organisé par Djokovic. Le numéro 1 mondial est à son tour positif au Covid.
Europe 1.
18h13 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. L'épidémie aux États-Unis continue d'inquiéter, en particulier dans les États du Sud. Et Donald Trump a décidé de serrer la vis en gelant l'attribution de nombreux visas de travail.
Ouais, avec ce message réservé, les emplois aux Américains. On est en pleine campagne présidentielle. Et son adversaire, Joe Biden, lui, sort son plus gros atout ce soir. Barack Obama, dont il fut le vice-président. Xavier Yvon, on vous retrouve à New York. C'est la première fois qu'on va le voir aux côtés du candidat démocrate.
Oui, alors aux côtés, en tout cas sur l'écran au moins, parce que c'est une rencontre virtuelle, une réunion de levée de fonds en ligne. Pour y assister, il faut payer une participation, il n'y a pas de montant minimum, mais le nom de Barack Obama, évidemment, est un aimant à donation. 120 000 personnes inscrites, c'est beaucoup pour un événement à suivre en vidéo. 4 millions de dollars collectés pour l'instant. Il faut savoir que Joe Biden est dans une course au dollar en ce moment pour rattraper son retard énorme sur Donald Trump, qui a amassé lui ces 4 dernières années un trésor de guerre monumental. Barack Obama vient donc donner un coup de main à son vieil ami et ancien vice-président. On nous annonce qu'il va parler, je cite, de ce moment turbulent que traverse l'Amérique. Pour l'ancien président, c'est un retour sur le devant de la scène politique. Il a refait surface progressivement depuis qu'il a annoncé son soutien à Joe Biden il y a 3 mois, notamment en tweetant de plus en plus. Il va s'engager aussi davantage dans la campagne, notamment après l'été, dans la dernière ligne droite. Et Barack Obama est donc redevenu une cible récurrente pour Donald Trump, qu'il a accusé hier de haute trahison, sans qu'on sache très bien pourquoi. Le président sortant veut faire de son successeur l'épouvantail de la campagne.
Xavier Yvon en direct des États-Unis. Et dans ce contexte de tension raciale, on retient cette image. Hier soir, des manifestants ont tenté de déboulonner une statue installée juste devant la Maison-Blanche, statue du président Andrew Jackson, président au 19e siècle et figure controversée pour son passé esclavagiste.
Et l'épidémie de Covid qui s'étend aussi dans le monde du tennis. Cette fois, c'est le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui est positif.
Et on vous racontait dès hier soir ce tournoi que le Serbe a organisé dans les Balkans avec bien peu de précautions. Tournoi qui a tourné court lorsque plusieurs joueurs ont été testés positif. Et donc, on apprend aujourd'hui, Corinne Boulou, que Novak Djokovic lui-même est rentré chez lui avec le virus.
Oui, en effet, le numéro 1 mondial a annoncé lui-même dans un communiqué avoir été contaminé, tout comme son épouse, Yelena d'ailleurs. Novak Djokovic précise ne ressentir aucun symptôme et indique qu'il subira un nouveau test dans 5 jours. Sa tournée, destinée à aider les joueurs de la région des Balkans en difficulté, a viré au fiasco. La faute à un manque évident de précautions sanitaires, non imposées, il faut le signaler, par les directives locales. Alors, ce couac est-il de nature à remettre en cause le calendrier de reprise des tournois officiels ? Élément de réponse avec notre consultant Cédric Pioline.
du fait que ça soit pas mal en amont, je dirais, de la reprise du circuit. Ça va permettre d'abord aux joueurs touchés de se soigner et puis aux organisateurs d'affiner encore plus les précautions sanitaires qu'il faut prendre. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué dans un sport où il y a du contact, où ça transpire, où il y a du public. Normalement, c'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Alors Novak Djokovic, qui trouvait les protocoles sanitaires un peu trop stricts à l'US Open, va devoir sans doute réviser son jugement à la lumière de cette tempête qu'il traverse.
Merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Et puis pour ce qui est du foot, la Ligue 1 se jouera bien à 20. La décision a été confirmée aujourd'hui par l'Assemblée Générale qui réunit tous les clubs et qui a relégué du même coup Amiens et Toulouse en Ligue 2.
Merci Sébastien, à tout à l'heure. 18h30.